Moi, j'ai une question à propos de la production. Vous avez dit la production va prendre beaucoup de temps et donc il faut qu'on allège les axes. Et donc ma question, c'est est-ce que quand on fait la production, quand on est l'élève, est-ce qu'on n'apprend pas aussi dans ces axes-là en faisant? Ou est-ce que la production se présente juste comme une illustration de ce qu'on a appris à côté, quoi?
Non, je crois pas. Mais parce que ce sera la première fois, je vais la jouer modeste. C'est-à-dire qu'en produisant, on va apprendre. Mais ces trois axes, quand je vous les ai présentés, ils étaient très différents les uns des autres. Et même du point de vue notionnel, ça prendrait plus de temps que ça. C'est l'avantage d'avoir ce programme spiralaire. Donc, par mesure de précaution, il me semble qu'un seul axe suffira. Si je me trompe, on en rajoutera. Et ça sera toujours possible. Par contre, donc je vous ai rappelé, je pense qu'il, comme notre conviction, c'est que la production doit être terminée, valorisable et publiée, il faut qu'elle soit de bonne tenue. Donc on préfère maximiser ce temps-là, même s'il est intégré, bien sûr. Ouais, c'était bien de vous voir ça au début d'après-midi, hein ? Pic insulinique postprandial, vous êtes tout mou ?
Ah. Oui, moi ce qui me frappe peut-être et qui fait écho à des choses qu'on a déjà entendues, c'est cette double posture qui est celle du formateur, qui se coltine avec un problème nouveau, qui essaye très concrètement et pratiquement de le résoudre, et qui, en faisant ce travail, réfléchit au problème qu'il pose. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement réflexif, hein, c'était bien le but. Voilà, c'est-à-dire qu'une sorte de dégrossit le projet pour fabriquer pour ses collègues en formation, non pas du clé en main, mais des outils d'ingénierie. Voilà, une réflexion sur l'ingénierie nouvelle, complètement nouvelle, de gestes professionnels complètement nouveaux, que sont cette démarche de travailler ensemble. Et ce que ça montre, cette intervention, c'est que c'est tout sauf spontané, que ça a besoin d'apprentissage, voilà, et qu'il y a des questions non résolues, etc. Voilà. Et que c'est une réponse provisoire, si j'ai bien compris. Voilà.
Exactement.
Mais on voit bien que le statut des formateurs, dans leur posture d'accompagnement, c'est pas d'accompagnement, il y a qu'à faire donc. C'est j'ai un petit cran d'avance qui fait que j'ai eu le temps de réfléchir et pas toute seule avec un groupe. Et ce petit cran d'avance m'a permis de théoriser et je peux tirer des fils, ce que vous avez fait tout du long, tirer des généralités, des fils, des principes. Et ce que je disais hier, des étapes. Probablement, il y a des étapes. Ça me frappe beaucoup depuis hier sur cette nécessité de réfléchir par étapes. Hein, voilà.
Alors pour rebondir, ce travail-là de formateur, c'est vrai que on le voit pas beaucoup. Ce qui peut-être que j'ai oublié de dire, c'est que Anne Testey et moi, nous sommes formatrices depuis plus de 10 ans. Donc des réformes, des socles, des nouveaux programmes, des dispositifs. On n'en est pas à notre premier. Mais, comme vous le dites, on a environ 1 minute et demie d'avance, pas plus. Et on le sait et on le dit, ça aussi.
Non, dans le projet, bon, d'abord on voit bien le poids, vous avez évoqué le fait que l'organisation spatiale du temps n'était pas réglée. Donc votre répartition en heures, au fond, ce sont des plages qui sont existantes dans le plan du temps, j'allais dire standard.
Oui.
La deuxième solution. Quand vous évoquez une répartition trimestrielle, c'est des solutions. Quelles solutions auraient été évoquées comme autre utilisation du temps? Des regroupements par journée, des choses comme ça?
Alors,
ça a été évoqué dans la.
Oui, tout est possible. On peut très bien imaginer des EPI, des temps d'EPI qui soient bloqués sur une semaine ou deux, ou qui pourraient servir à des temps d'intégration. Tout a été évoqué. Mais ce que j'ai vu dans l'académie, c'est qu'on a demandé à des chefs d'établissement de modéliser différentes organisations, en tenant compte de coûts de dédoublement, de co-animation. Et ce choix de regroupement n'a pas été gardé. La question qu'on avait posée en termes de modélisation, c'est est-ce que les EPI mangeaient toutes les heures de souplesse et quel emploi du temps ça faisait aux élèves. Et donc on leur a demandé un travail très technique, c'est de faire des hypothèses et de faire tourner les systèmes d'emploi du temps pour à quoi ça allait ressembler. Alors la réponse qu'on a eue, ils ont inventé des systèmes avec des quarts d'heure, des machins, des trucs, enfin bon, c'est que les EPI peuvent manger toutes les heures, mais il faut s'en donner la peine, hein. Va falloir dédoubler, va falloir y aller, hein, c'est possible. Mais en étant raisonnable, mais en gardant le sens quand même, des heures sont conservées de la souplesse. Donc non, les EPI ne mangent pas toutes les heures, ne bouffent pas toutes les heures. C'est donc vraiment une décision politique, pédagogique et politique. Il faut la réfléchir, il faut la discuter. Et puis, ce que j'ai vu en termes d'emploi du temps et de positionnement, c'est que les heures vont être fléchées, mais pas les plages horaires. Est-ce que vous comprenez ? Ok, je le refais. Donc, il n'y aura pas EPI tous les lundis de 10 à 12. Il y aura les cours et dans les cours, on fléchera EPI. Donc, finalement, ça pourrait passer complètement inaperçu. Hein ? Ce qui va faire que peut-être ça passera moins inaperçu, c'est si on fait de la co-intervention, parce que ça...
Voilà, j'ai une question là-dessus, co-intervention, quelles sont les possibilités qui ont été proposées? C'est une question qui est arrivée en termes de... Un collègue a posé la question des moyens de co-intervention. Qu'est-ce que vous avez dit à ce sujet? Proposé et nous déciderons que nous refusons? Ou bien on vous a dit il y a un volant, il est pris sur la dotation globale. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme indication initiale et comment vous voyez les choses?
Il n'y a pas d'indication, ça dépend énormément des... style de management des chefs d'établissement. Il y a des chefs d'établissement qui nous ont étonnés et qui, dès septembre, avaient déjà décidé comment ça tournerait chez eux, quelle discipline allait s'y coller, etc. Et d'autres qui construisent avec leurs équipes et qui sont plutôt dans une posture d'arbitrage. Ce qui est dit en tout cas... et qui est reconnu dans l'académie, c'est que une heure de co-animation, ça fait 2 heures prof. Ça se paye 2 heures prof. Ça, oui.
Donc le principe d'une co-animation, même si le montant n'est pas bloqué vers le haut, il est acquis pour une partie des projets. Tel que vous l'avez fait au moins en début, milieu et fin, ça paraît. C'est un exemple.
Oui.
Des questions aussi d'ordre technique.
C'est ton... Oui, c'est important, bien sûr.
Merci. Deux choses. En fait, la première, c'est la dernière dont vous avez parlé, cette idée qu'il y aurait des heures qui seraient fléchées EPI. Dans l'Académie de Grenoble, c'est un choix qui apparemment est en train de se dessiner dans beaucoup d'établissements, au point que certains collègues me disent « Bon, bah, cette semaine, en fait, le lundi, j'aurai cours d'EPI ». Ça m'a fait hurler quand j'ai entendu ça. Et puis, ils m'ont regardé en disant « Mais qu'est-ce qui te choque ?» C'est ce qu'on nous a dit en réunion. Bon, ben... voilà quoi. Ou l'art est la manière de vider la réforme de son sens. Je vous vois bien un quart d'heure avant la fin de l'heure dire aux élèves attention maintenant on est au pays. Et puis alors il y a une deuxième chose qui est une réaction par rapport aux propositions que vous avez faites de comment on pouvait réinvestir votre projet de pays dans d'autres disciplines. Et en fait, qui a beaucoup résonné chez moi par rapport à toutes les problématiques que je me pose depuis des années, c'est-à-dire le risque de l'instrumentalisation d'une discipline par une autre. Ce que je considère être tout à fait possible, si les choses sont claires, moi je défends l'idée de discipline pivot. Hein, et je vois quand je travaille avec mon collègue d'italien, souvent, quand il présente le projet, il dit, dans ce projet-là, la discipline pivot, c'était plutôt l'histoire géo. Mais surtout, ce que je retiens, et c'est aussi ce qui inquiète beaucoup les collègues, c'est que ça demande d'entrer dans un, dans un formatage disciplinaire qui n'est pas le nôtre. Et il y a un très bon exemple que nous, on a tout le temps en histoire, et d'ailleurs, vous l'avez présenté, c'est nutrition et histoire. Typiquement, c'est quelque chose qui est impossible. Voilà. Typiquement, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que si c'est en troisième, on travaille le XXe siècle. Donc, dans les programmes, il faut savoir qu'on fasse la nutrition au XXe siècle. Et encore, je ne sais pas tellement. Mais c'est toujours le problème auquel on va être confronté. C'est qu'on a des représentations sur les disciplines de nos collègues. Et souvent, justement, ce temps de négociation et de discussion pour savoir ce que chacun va pouvoir y mettre, il ne va pas être si facile que ça à trouver.
Oui, je pense qu'on a parlé de contraintes techniques. La contrainte, elle est vraiment fondamentale, épistémologique. Quel est ce sens de cette... Quels sont les objets concrets, les monstres, les chimères concrets? Et une partie des critiques était très légitime sur... Est-ce que ça a du sens de créer ces objets? C'est pas si simple que ça. L'interdisciplinarité, tu as évoqué rapidement au moins trois concepts, inter, trans, pluri, etc. Il y en a d'autres, il y a bi, il y a... Oui. Voilà. La réflexion théorique sur ces notions-là, par exemple, qui a été menée au Québec, parce que ça fait un certain temps qu'ils travaillent sur ces questions-là, qui a été menée au niveau universitaire, parce que dans les universités, cette question de créer des espaces interdisciplinaires, c'est une question centrale. Elle a été abordée aussi, par exemple, pour les gens du premier degré, pour qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut faire éclater ou pas la limite disciplinaire. Elle a été posée dans des secteurs comme, par exemple, les éducations A, ou des secteurs qui regroupent. Tu as parlé d'éducation EDD, mais il y a aussi tout ce qui concerne, au fond, l'éducation morale, EMC, etc. Il y a des espaces où cet objet-là, il est problématisé. Je crois que c'est vraiment une question très complexe, et en même temps, ça a un effet heuristique sur qu'est-ce qu'on veut enseigner. Je pense qu'un des grands dangers, c'est moins l'instrumentalisation que la création de chimères épistémologiques, ou d'oublier que cette histoire de l'interdisciplinarité, ça a une longue histoire scolaire. Ça commence, si on remonte dans les années 60, il y a ce qu'on appelle les activités d'éveil, avec la même logique. Profiter de mettre ensemble des gens pour avoir un gain, chacun étant gagnant-gagnant dans l'affaire. C'est pas nouveau, les EDD, etc. Mais il y a quand même une réflexion de fond, et qui oblige, qui demandera du temps. Moi, je pense qu'effectivement, dans les temps qu'on a, moi, je vous fais aucun reproche sur les objets que vous traitez. Lorsque tu parles d'objets frontières, qui est aussi un concept qui vient d'ailleurs de la sociologie de la science, etc. C'est au fond, par exemple, l'objet frontière, ça a été créé dans un musée qui voulait, qui a croisé la logique du musée du muséographe et puis la logique du spécialiste de biologie qui devait apporter les contenus. Il a été créé à ce moment-là. Et je crois que ça, c'est vraiment la peine, et ça prendra vraiment du temps de créer cet espace-là, parce que tous ces objets ne sont pas possibles. Et encore, concevoir l'interdisciplinarité comme l'obligation que chacune des disciplines se retrouve sur des objets partagés, un objet commun, c'est pas un objet partagé. Quel est cet objet frontière? C'est un contenu, une notion, l'alimentation. Ce sont des supports communs, par exemple des textes qui circuleraient, des images, par exemple, qui seraient commentées. Je prends par exemple l'image d'un paysage, elle peut être lue en géographe. Elle peut être lue en historien, elle peut être lue dans les arts plastiques. Mais est-ce que ça en fait pour autant un objet frontière? Par contre, c'est poser ces questions, c'est est-ce que c'est un objet matériel? Est-ce que c'est une question? Voilà. Et vraiment, ça pose une question compliquée. Encore une fois, je l'ai dit en introduction, ces objets-là, eh bien, ils n'existent pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui réfléchissent. On est obligé de faire le travail que vous faites, avec nos petites mains, de créer ces objets, cette réflexion. C'est une idée très, très compliquée. Et encore une fois, la question de l'instrumentalisation, c'est de faire servir une discipline plutôt en appui à une autre, pourquoi pas, dans la mesure où il y a équilibre et reconnaissance, et que d'une certaine manière, chacune d'elles reconnaît ses petits. Par exemple, un prof de français, il pourra toujours servir pour corriger les textes et faire en sorte que les accents et les majuscules soient à la place. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais ça, le matheux, il va vérifier les tableaux de chiffres pour voir si les statistiques, etc. Mais, donc, il faut vraiment poser cette question entre la pluridisciplinaire, l'inter, le trans. C'est vraiment une question tout à fait centrale. Ça pose vraiment la question que vous avez posée, mais je crois que d'autres collègues ont posé. C'est-à-dire, quand vous faisiez un sujet de théâtre, par exemple, ça avait l'air un peu plus facile d'être entre les arts, et le théâtre et puis le français. Ça va être un peu plus compliqué. Vraiment, c'est une question difficile. Vous l'abordez avec cette question-là. Ça pose vraiment la question, par exemple, de savoir, au CAPES de lettres, si je devais faire un dossier ou poser une question sur cette question avec l'entrée nutrition. Quelle est la problématique en histoire? Je pense par exemple qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait trouver, mais est-ce que ça se rattache à vos modes d'accès? C'est encore une chose. Alors est-ce qu'on est dans... On a une question commune qui est séparée, en fait, on travaille en écho lointain, ça peut être aussi légitime, ou est-ce qu'on essaie de retisser? C'est vraiment une question compliquée et d'ailleurs tout à fait passionnante en termes de, pour les formateurs, à mon avis, l'identification de ces objets qui facilitent les choses. Alors, objets, supports, questions, tâches, peut-être que ce sont des tâches aussi qui peuvent faire d'objets complémentaires, ça c'est vraiment une question, mais je crois qu'elle est vraiment devant nous, d'autant plus qu'on le voit, elle est fortement contrainte, tout simplement par la question toute bête, combien de temps je prends à travailler avec les copains, combien de temps je peux prendre pour préparer, et combien de temps j'ai avec les élèves. Tu as parlé aussi des doublements, etc., d'organisation. Et on voit bien que les EPI, c'est quand même 20 heures, c'est des modules, cours.
Ben, ça dépend, hein, parce que dans mon établissement, c'est un semestre. Donc, par exemple, en histoire 5e, il faut mettre un tiers du programme.
Mais sur combien d'heures?
2 heures par semaine. Mais mon chef d'établissement met 5 disciplines sur les 2 heures.
D'accord.
Oui. J'étais très intéressée par la réflexion qui avait été menée sur la construction, parce que le problème, c'est que c'est ces contraintes matérielles et des choix qui sont faits dans certains établissements qui vont aussi faire que la réforme ne passe pas.
Alors, moi, je voudrais réagir sur les déclinaisons. C'est une recherche. Cette déclinaison-là, c'est de dire, si ça marche pas, vers qui je vais me retourner. Bien sûr, dans mon idée, il y aura forcément négociation, et si c'est pas la nutrition, je trouverai à... Moi aussi. Restrictions alimentaires, voilà. Hein? Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme je vous ai dit, qu'on peut penser en termes d'équipe, c'est-à-dire que c'est les, par exemple, SVT et histoire s'y collent. Et puis, vous n'avez pas de chance. Votre collègue d'histoire est remplacé par un TZR qui vous dit « moi, je suis en inconfort total ». Et votre chef d'établissement vous dit « bah écoutez, vous, ça ne sera pas histoire géo, inventez donc quelque chose avec ». On n'est pas à l'abri de ces bricolages de dernière minute. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu avec les IDD. Je me mettais d'accord avec ma collègue de français. Et donc, on était partis, on avait passé nos traités, on avait des idées, on avait etc. On arrivait à la rentrée, on n'avait pas d'heure, pas d'heure pour se rencontrer. C'est-à-dire que je pouvais pas venir dans ses cours de français, elle pouvait pas venir dans mes cours de SVT. Et elle me disait, non, mais moi, si je peux pas faire ça avec toi, je viens pas. Et paf, je me retrouvais avec. Voilà. Donc, j'ai toujours eu des surprises comme ça. Alors après, bon, vous voyez bien, moi, j'étais plutôt au milieu de carrière. Hein. Donc, j'aime bien jongler et m'amuser, ça ressemble pas à ce que j'ai préparé, tant pis. Mais je comprends et je peux l'imaginer que quand on change mon programme, parce que moi, il me faut toujours un an hein, pour amadouer les choses, ça va me faire beaucoup. Donc on n'est pas à l'abri de ces bricolages de dernière minute, il faut faire face parce qu'après tout, ce collègue TZR qui est en satellite autour de plein d'établissements, il se dit non, moi je peux pas, et donc il faut trouver autre chose. Hein, donc... on n'est pas à l'abri.
J'ai quelque chose qui me tracasse là depuis le début de cette formation. J'ai pas beaucoup entendu parler de l'analyse des besoins des élèves. C'est-à-dire que là, on parle de projets. Donc, si je reprends le début de vos propos, logique d'économie, de conservation, de création. On l'a entendu de manière différente. À plusieurs reprises hein, dans les propos qui ont été posés. Et en fait, pour moi, tout ce qui est proposé là, et surtout dans cette réforme, c'est comment on fait progresser les élèves, tous les élèves, là où ils en sont. Et j'ai pas du tout entendu d'analyse des besoins des élèves et que le service, que le projet soit au service des élèves. J'ai l'impression qu'on entend... beaucoup, je me trompe peut-être, hein, mais qu'on entend beaucoup le projet au service du projet, oui. Mais pas forcément des actions au service du projet, mais les élèves, quid des élèves et qu'est-ce que voilà.
Alors c'est de la faute, c'est de ma faute. J'ai oublié de dire que ce projet sur l'alimentation, il est relevé d'un constat du CESC, hein, d'élèves qui se nourrissaient pas bien.
Vous l'avez dit vaguement, mais...
Voilà, donc c'est pour ça qu'il existait, et c'est, j'en ai un tout petit peu parlé aussi, quand je vous ai dit, bah tiens, pourquoi pas faire, vous savez, sur la notion de consentement, parce que ça s'inscrit aussi, voilà, dans l'idée de l'éducation à la sexualité et à la vie, mais là, vous avez raison, ça correspond à des contextes de scolarisation, et donc ma lecture, qui est que la mienne, c'est que en étant un membre actif du CESC, je suis sur les besoins éducatifs. Et donc, c'est ce qui m'a guidée sur ces deux exemples de pays. Mais un collègue d'une autre discipline, ou peut-être pas engagé dans cet éducatif, voilà, j'ai bien conscience que l'éducatif en termes de santé, je ne sais pas pourquoi l'éducation à la sexualité, c'est toujours les SVT qui s'y collent. Ils vont être des affreux obsédés sexuels, hein, ça va être ça. L'alimentation, voilà, c'est aussi, c'est des, voilà, ça fait partie de mes caractéristiques. Hein, je suis d'accord.
Alors, c'est vrai que moi j'ai peut-être une déformation, c'est que je travaille en REP plus si on a une culture de réseau et on a une culture de d'évaluation de projet, en tout cas, ou de, on travaille beaucoup sur les indicateurs. Oui. Et c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup. Comment on fait progresser nos élèves?
Ouais. Bah, d'ailleurs, pour terminer, hein, l'éducation à la sexualité et à la vie, vous savez que c'est une éducation à mener qui n'est pas liée aux disciplines et qui doit être menée de la maternelle jusqu'à la terminale. Et donc, je suis chef de je sais pas quoi, mais bref, c'est moi qui fais ça, qui l'organise, mais qui fait pas tout le temps. Et un des effets inattendus, ça a été la pacification des relations garçon-fille. Et c'est mon CPE qui me l'a dit. Alors, c'était pas un effet attendu, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on poursuit. Et là, on n'était pas très scientifique, c'est qu'on l'avait pas mesuré avant, comme on l'avait, c'était inattendu. Et on sait pas laquelle des actions, celle menée en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, ou les quatre, ou etc., qui est porteuse de paix. Donc, comme on ne sait pas, on continue.
Oui, ben, je ne veux pas rebondir sur ce qui est dit tout de suite, mais c'est quelque chose dont on a discuté à midi en se disant il faut absolument qu'on revienne sur cette question des élèves, etc. On ne peut pas sortir de cette formation sans revenir au centre du centre de tout ce qu'on raconte, puisque ce sont les élèves. Hein, voilà. Mais c'est pas là-dessus que je voulais parler. Simplement, c'était pour prolonger la discussion. Sur l'objet, est-ce qu'il est frontière, etc. Moi, j'ai le sentiment que la nouveauté, peut-être, c'est peut-être une impression, est-ce qu'il est au début, est-ce qu'il est à la fin, hein, la question de la fabrication, la production, voilà. Et moi, j'aurais le sentiment, personnellement, de dire que ce qu'il y a de nouveau, mais pas encore beaucoup dit, c'est que la production, c'est un problème complexe. C'est inventer un problème complexe à résoudre pour que les disciplines arrivent avec leurs compétences, leur savoir, pour arriver à résoudre ce problème. Voilà. Et ça, c'est complètement importé de la culture anglo-saxonne, où les disciplines n'existent pas de la même façon que chez nous. Mais cette dimension d'amener les élèves à travailler sur un problème à résoudre, ça fait 30 ans qu'ils sont dessus. 30 ans qu'on n'est pas dans une rationalisation, etc. On est aussi dans un esprit un peu pragmatique d'amener les gens à mobiliser tout leur savoir, toutes leurs compétences de tous les côtés pour résoudre un problème, une tâche complexe, ensemble et à plusieurs. Voilà. Donc, voilà, ça pose la question de est-ce que la production, c'est un prétexte pour... Ou est-ce que c'est une vraie finalité? Voilà. Et il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce statut de la production. Et s'il n'y a pas de production, parce qu'il peut y avoir des projets sans production ou un truc ficelé vite fait à la fin pour faire joli, je ne suis pas sûre qu'on soit dans l'esprit. Mais bon.
Oui, je voulais revenir sur les besoins, la question des besoins des élèves, puisque vous trouviez qu'on n'en parlait pas assez. Dans la salle. Je suis chef d'établissement et j'y reviendrai demain, mais c'est vrai que cette réforme, elle est... très intéressante, mais elle nous met aussi en situation d'inconfort parce qu'on est obligé de poser les cartes sur la table. Et en conseil pédagogique dans l'établissement que je dirige, j'ai posé les cartes sur la table en disant, bah voilà, les élèves, où peuvent se situer les besoins des élèves. Alors on a ciblé l'anglais puisqu'ils viennent de différentes écoles, les niveaux sont hétérogènes, donc en sixième, pourquoi pas des besoins en anglais. Mais on a posé aussi les cartes sur la table de l'analyse des résultats du DNB. Avec les moyennes de l'établissement obtenues, les moyennes académiques, départementales, et puis la différence avec les autres établissements sur les résultats de l'épreuve écrite. Enfin, tout ça, ça met en situation d'inconfort. Mais ça nous permet de progresser aussi parce qu'on se parle franchement et on parle vraiment des besoins des élèves et puis aussi du ressenti des enseignants dans leur classe. Quand je leur fais faire ça, ils ont toujours du mal à transposer des notions, je sais pas, le calcul de vitesse en mathématiques, physique et puis en EPS par exemple, des choses comme ça. Mais je crois qu'on l'a à l'esprit, la question des besoins des élèves, et c'est ce qui pilote justement, c'est ce qui fait qu'on va vers tel et tel EPI ou vers tel et tel accompagnement personnalisé aussi. Voilà, j'y reviendrai demain.
Alors après, il faut se demander si on est sur le ressenti que les enseignants ont des élèves ou des inconforts qu'ils ont avec eux. Et la vitesse, en tant qu'SVT, j'aurais beaucoup à en dire parce que les vitesses en géologie, c'est des unités, c'est du temps qui est inexistant, quoi. Des millions d'années pour des adolescents, 15 jours c'est long alors. Et quand il faut que je calcule des vitesses d'agression. Donc parfois j'ai des inconforts. Par exemple, j'ose à peine vous l'avouer que la tectonique des plaques en quatrième, je vois pas comment je arriverai un jour à résoudre ça. Ça restera, vous voyez, si je vous dis tectonique, à mon avis, vous pensez à des trucs. Hein, voilà, par exemple, si vous voulez. Tout le monde a entendu ça, et moi, en tant qu'enseignante, je ne sais pas comment faire. Et je m'y entraîne chaque année. Chaque année, je redouble. Mais bon.
Et puis, un autre élément de réflexion, qui a été évoqué avec la question à la fois des besoins des élèves, la question du contenu et de la production. Enseignement pratique, c'est encore une fois, parce que aussi Dominique a évoqué vaguement, précisément, le pragmatisme dewayen et le projet, la notion de projet, la pédagogie de projet, problem-based project, pédagogie, ça vient des États-Unis, mais ça vient en fait de l'éducation nouvelle, hein, de ce courant-là qui était quand même actif à la fin du 19e et qui est français, bon, que les Américains ont repris, ça revient avec des mots anglais, puis c'est beaucoup plus chicos. C'est comme la main à la pâte. The Mint ou The Pest, ça a beaucoup mieux marché à un moment. Alors que, en fait, ce que découvrait le prix Nobel quand il est allé aux États-Unis, c'est des ateliers freinés. Voilà. Donc, c'est simplement avoir une position historienne, c'est intéressant aussi pour toutes ces histoires. Encore une fois, la question de la production, ne pas la concevoir comme quelque chose qui serait une corvée, quelque chose qui viendrait à la fin, quelque chose qui serait là, on a travaillé sur l'écrire. Et encore une fois, on parlera tout à l'heure des langages pour clarifier un peu la notion parce qu'elle est pas clair. Vraiment, c'est les langages, enfin, ou les formes d'expression, la dimension sémiotique de l'action n'est pas là pour embellir, pour traduire, pour être. Mais c'est vraiment un support de travail. Tu travailles sur des caractéristiques, tu travailles sur des brouillons, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et quand on évoque l'évaluation des élèves, l'activité de l'élève se mesure en kilomètres d'écrit, en nombre de paroles prononcées, vraiment, on peut là-dessus des indicateurs extrêmement. Il faut vraiment penser la production non pas comme quelque chose qui viendrait après, en dessous, à côté, mais comme le support et la substance même des contenus sur lesquels on travaille. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine des arts plastiques, en géographie ou en histoire. En géographie, on va poser la question concrètement sur quoi travaillent les élèves, qu'est-ce qu'ils produisent, qui est spécifique à la géographie et qui traduit la discipline, qui est une réflexion sur les langages, et on aurait, par exemple, avec la géographie, mais avec d'autres, c'est vraiment une question tout à fait centrale, et c'est pour ça qu'analyser ta séquence en termes de qu'est-ce qu'on fait faire et que vont faire les élèves en termes de production.
Alors, à propos de la production, j'ai une anecdote qui est très révélatrice, c'est-à-dire qu'hier, j'ai pas eu le temps de vous montrer le deuxième outil, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le schéma heuristique, on a un autre outil qu'on appelle une timeline. Alors c'est le nom qu'on donne dans le logiciel. En fait, c'est une ligne de temps qui permet de structurer les interventions des uns et des autres, un peu comme ce que vous avez montré. Et c'est une arête de poisson. Et en fait, on part de la fin, c'est-à-dire qu'on part de... Alors, ce qu'on appelait autrefois la tâche complexe, mais les inspecteurs veulent plus. Maintenant, faut dire situation problématisée. Et voilà. Et à chaque fois que je la présente, alors Canopée, les cahiers pédagogiques ou des inspecteurs, ils me disent « Mais vous avez une drôle de façon de concevoir le temps. » Et je dis « Comment ça ?» Ils me disent « Bah, la fin, elle est à droite. » Je dis « Bah non, parce que je pars de la situation problématisée. » C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mobiliser comme compétences, comme connaissances, pour que à la fin nos gamins ils soient capables de d'être dans cette situation-là. Mais c'est une vision du temps. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à faire là aussi. C'est une vision du temps qui n'est pas concevable parce que la démarche de progrès elle doit pas aller dans ce sens-là, quoi. Après, je voudrais revenir aussi sur quelque chose parce que je trouve que c'est j'ai déjà entendu cette chose-là sur le fait qu'on parle pas assez des élèves. C'est à la fois injuste et à la fois révélateur. C'est injuste parce qu'en fait, je pense que tout le monde ici est parti du postulat que si on faisait ça, c'est parce qu'il y avait des élèves avant. Et c'est aussi révélateur du fait que si on n'est pas dans l'explicite aujourd'hui, encore plus qu'hier, si on n'est pas dans l'explicite, ça bloque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours aussi avoir à l'esprit. Donc pas seulement avec les élèves, mais aussi avec les adultes.
Et je crois que c'est difficile. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure, mais pardon. Ce qui définit le projet, c'est pas tellement c'est la durée, c'est vraiment sa cohérence. Et sa cohérence, c'est quelque chose qui le finit. Par rapport aux espaces pédagogiques dans lesquels on est, dans lesquels le savoir, il est très loin devant, jamais on le rattrape. D'ailleurs, on n'a jamais 20. Non, mais il y a une définition très, très platonicienne du savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Voilà. Non, mais en même temps, cette question-là, elle est très concrète. Et je pense qu'il faut penser la contrainte plutôt comme une heuristique et comme une aide à... que comme enfin, c'est une contrainte, bien sûr, mais comme une aide. Qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes ? Fait qu'on fait les thèses en 3 minutes, maintenant. Voilà, enfin, on les présente en 3 minutes. Oui.